That was the freedom bell. To remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
C'est l'heure de l'apéro.
L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophonie. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Grenoble 90.
L'apérophonie.
L'apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Ce soir, je voulais vous parler de la fièvre du samedi. Pas celle des nuits disco, des costumes pailletés de Travolta et de refrains des Bee Gees. Celle-ci prend au petit matin, se vêtit de gilet jaune et entonne Macron démission à défaut de Stayin' Alive. Ce soir, j'aimerais vous parler de Léa. Léa a 17 ans, elle est en terminale ES dans un lycée dit de banlieue. Elle n'a rien d'une engagée, rien d'une révoltée. Elle n'a jamais bravé la loi, elle a toujours payé ses tickets de tram, elle n'a jamais menti sur son âge pour bénéficier des réductions au musée. Pour elle, la révolution se résume au chapitre d'histoire qu'elle doit réviser pour le bac. Léa, elle pense souvent à son avenir, mais au lieu de voir l'après comme un champ des possibles, avant même d'être majeure, elle s'angoisse de l'avenir. Elle a entendu parler des réformes du bac, de la sélection sournoise qui pourra se cacher derrière les demandes d'entrée à l'université, de tous ces changements que l'on veut faire pour soi-disant les aider, alors que ce qui soutiendrait vraiment les lycéens, c'est plus de profs et des classes moins surchargées. De tout ça, Léa n'en parle pas, sauf avec ses amis. Elle fait partie de ceux qui se taisent à défaut d'être entendus, de ceux qu'on ne prend pas la peine d'écouter parce qu'ils n'ont pas 18 ans, de ceux qu'on méprise pour leur immaturité mais qu'on considère comme assez adultes pour arriver à encaisser les déceptions d'un avenir écroulé sous le coup de l'algorithme de Parcoursup. Alors ce samedi, Léa a fait ses premiers pas de militante. Elle s'est levée à 7h comme tous les jours, mais elle ne s'est pas dirigée vers la route du lycée, non. Ce samedi de décembre, elle est allée manifester. Ce soir, j'aimerais vous parler d'Étienne. Étienne, il a 40 ans et il est ouvrier. Sa femme est infirmière à domicile, ils jonglent tous les deux entre leurs horaires pour pouvoir garder leurs deux petites filles, parce que payer une nourrice serait trop cher. Du coup, ils ne se voient plus qu'en coup de vent, depuis maintenant 3 ans. De toute façon, même s'ils avaient du temps à se consacrer, ils auraient à peine les moyens de s'inviter au restaurant. Ils triment toute l'année, attendant avec impatience les vacances pour pouvoir se reposer, même s'il y a des lustres qu'ils n'ont pas vu plus loin que la barre de HLM de leur quartier. Avant Noël, ils se serrent la ceinture comme ils peuvent pour pouvoir placer des cadeaux au pied du sapin et manger autre chose que du poulet nourri aux OGM. Parfois, Étienne repense à l'avenir qu'il voulait avoir quand il avait 20 ans et il ne comprend pas à quel moment il a pu basculer de rêver sa vie à organiser sa survie. Alors, quand il a entendu parler de ce mouvement national et non syndiqué, de ce ras-le-bol généralisé qui a enfin décidé de s'exprimer, il n'a pas hésité. Il a enfilé son gilet jaune, ce gilet des bobos à vélo qui devient aujourd'hui symbole de la lutte des prolos, et il est allé rejoindre les autres. Nouveau communard made in 2018, ils ont fait des ronds-points leur place forte, bloquent les péages, espèrent se faire écouter quand ils distribuent leurs tracts à travers les vitres baissées. Dans le froid de l'hiver, à quelques jours de Noël, Étienne se réchauffe de pouvoir partager sa colère, protester de vive voix, espérer à plusieurs. Ce soir, j'aimerais vous parler de Louis. Louis est policier depuis 4 ans. Il a choisi d'être flic par vocation, lui qui, enfant, rêvait devant les uniformes de ceux qui mettaient les méchants en prison. En grandissant, le schéma naïf des gentils et des bandits lui est passé, mais la volonté de faire le bien lui est restée. S'engager, ce n'était pas un moyen de bomber le torse, comme certains l'ont souvent dit, mais bel et bien par envie de protection et de rendre service. Son idéal du cavalier blanc travaillant pour la paix, il a cependant dû lui aussi l'abandonner. Assis toute la journée au poste ou en patrouille à se faire insulter, les feux d'artifice de Louis se sont transformés en pétards mouillés. À l'annonce des manifestations, on lui a confié une matraque et des grenades et on l'a envoyé sur le terrain avec la mission de protéger. Protéger qui? Protéger quoi? Louis se le demande encore quand il voit ses collègues rentrer blessés et la fatigue morale s'accumuler. Gilets jaunes et sacs à dos colorés s'avancent en une longue chenille unie face aux uniformes bleu foncé. Ce samedi-là, Léa a pu crier sa rage, se griser des vapeurs enflammées émanant des slogans qu'elle se plaît à répéter. Mais ce samedi, Léa a aussi été confrontée pour la première fois de sa vie à la violence, la vraie, celle qui vous monte à la tête et vous enfume les synapses bien pire qu'un gaz lacrymo. Elle a vu des gens se faire frapper, des corps trébucher. Elle a entendu la haine et les coups de matraque contre le pavé. Elle a vu les flashs des photographes illuminer les scènes d'une violence inhabituelle qui se transformera en généralité à la une des quotidiens le lendemain matin. Léa, elle ne s'attendait pas à ça. Elle se sent trompée, attaquée. Elle sent la colère qu'elle a pendant si longtemps intériorisée remonter le long de sa colonne vertébrale. Alors, la si sage Léa s'est jetée dans la foule et elle a frappé. Louis, il les entend leurs cris, il la voit leur colère, il la comprend même. Il aurait envie de leur dire qu'à défaut d'être un gilet jaune, il est lui aussi victime d'un système qui lui échappe. Qu'il accumule les heures supplémentaires non payées, que parfois, lorsqu'il se lève le matin, il a envie de pleurer. Que certes, on l'avait prévenu, on l'avait préparé, mais que se faire insulter et sentir les regards de haine le transpercer à longueur de journée, c'est une charge morale qu'aucune prime ne pourra jamais compenser. Il aimerait crier lui aussi, évacuer la peur qui lui noue le ventre et la culpabilité d'être l'acteur d'une répression qu'il ne cautionne pas. À ceux qui lui disent que les ordres, on peut les refuser, il aimerait leur répondre qu'il a comme eux des factures à payer. Mais que voulez-vous ? Aujourd'hui, on lui a demandé de se taire, de garder son sang-froid. Alors il va obéir. Rester de marbre sous les crachats, les injures et les caillasses, les caméras des médias braquées sur lui à attendre que l'un de ses collègues à bout de nerfs et de fatigue craque et mette un coup de matraque. Demain, l'odeur des croissants du dimanche matin a effacé celle des fumigènes de la veille. Léa croisera Louis en civil au Monoprix du coin, entre le rayon des bûches de Noël et les étals des mandarines. Hors des samedis de lutte et des codes de l'uniforme, ils se souriront sans se reconnaître, sans rien soupçonner de leur double vie de manif et de répression. Dans leur regard, pas de haine. Qui pourrait soupçonner qu'ils étaient hier les acteurs malgré eux d'une violence banalisée et ordinaire ? La fièvre du samedi, celle d'une humanité déshumanisée, les a quittés. Et sur les écrans de télévision, après le tableau formaté d'une barbarie fantasmée, les costumes rouges de Noël remplaceront bientôt les gilets jaunes de la lutte.
Le bouncer musical et culturel de ta radio.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Ce soir, nous accueillons Zélia qui vient nous présenter le club GSMH M38 Handball. Je suis accompagné de Jérémy à la régie.
Bonsoir.
Bonsoir Zélia.
Bonsoir.
Nous allons vous poser des questions sur l'évolution du club. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre club ?
Oui, donc j'appartiens au GSMH 38. C'est un club de hand qui réunit Grenoble et Saint-Martin-d'Hères. On a à peu près 400 licenciés cette année et notre équipe première est passée en Pro League cette année, qui est le deuxième niveau français. Donc on est très contents. Et ensuite, on a des équipes à peu près de tous les niveaux, vraiment. Voilà.
D'accord. Quel est votre rôle au sein du club ?
Donc je suis assistante événementielle et communication au club. Donc ça veut dire que je m'occupe vraiment de la communication, que ce soit au niveau du développement des supports papier ou encore au niveau des réseaux sociaux. Après, on s'occupe aussi au niveau des matchs, de l'animation, de la logistique. On est vraiment assez polyvalent et j'aide beaucoup Mélanie Chavigny, qui est la responsable communication événementielle du club.
Vous êtes passée en Pro League cette année. Que pensez-vous de votre passage et qu'est-ce que cela vous a apporté ?
Alors, c'est vraiment un travail de longue haleine sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Donc, tant sportivement que structurellement. Donc, on est vraiment content de ça et c'est vraiment un effort de longue haleine. Donc, c'est un petit peu une consécration. On attendait ça, c'était un objectif.
D'accord. Nous allons tout de suite faire une pause musicale et vous passer un morceau de Bob Marley.
Said I remember when we used to
Pour en revenir à votre passage en Pro League, est-ce que les joueurs arrivent-ils à vivre de leur passion ou doivent-ils travailler à côté ?
Oui, donc en fait, la Pro League, c'est vraiment un niveau qui est professionnel. Donc l'année dernière, ils étaient en amateur et cette année, ils sont vraiment pro. Donc du coup, ils ont vraiment le statut de professionnel et ils sont tout le temps au club. Oui, effectivement.
Vous êtes 12e. Êtes-vous satisfait de votre classement ?
Oui, alors en fait, on est 12e à égalité avec 3 autres équipes. Et du coup, c'était un petit peu notre objectif. Notre objectif cette année, c'est de se maintenir. C'est vraiment pas, on n'a pas d'objectif de monter encore cette année. Donc, on voulait se maintenir et pour l'instant, on se maintient avec ce classement. Donc, on est satisfait pour un promu, c'est très bien.
Vous avez perdu hier soir face à Grand Nancy sur un score très serré de 30 à 25. Racontez-nous votre match.
Oui, alors en plus, le match avait plutôt bien commencé pour nous. On mène une bonne partie de la première mi-temps. À la mi-temps, on perd de 2 points. 10 à 12, donc on y croit encore un petit peu. Et puis finalement, ils étaient plus forts que nous. Il faut savoir que Nancy, ils sont deuxièmes. Donc c'est vraiment une équipe très forte. Donc on est très content de les avoir tenus sur la première mi-temps. Au final, ça n'a pas tenu sur le match, mais c'est comme ça.
Comment préparez-vous la rentrée 2019 ?
Alors là, pour l'instant, c'est la trêve. Donc ils ont 2 semaines de vacances. Ils vont vraiment un petit peu se reposer. Et ensuite, notre premier match, c'est que le 1er février. Donc entre-temps, nous, on organise les Masters de handball le 19 et le 20 janvier. Donc c'est un tournoi auquel 4 équipes participent, dont le GSMH. Donc vraiment, à cette occasion, ça va pouvoir les remettre en route un petit peu par rapport à la trêve jusqu'au match suivant. Et puis, ils vont reprendre en pleine forme et déterminés à continuer la saison.
D'accord. Tout en restant dans le handball, qu'avez-vous pensé de la victoire des Françaises à l'Euro ?
Là, c'est une super nouvelle. Je pense que ça montre encore une fois que la France, c'est un niveau où le hand, ça marche. Avec, par exemple, les garçons qui sont champions du monde en titre. Il y a aussi les filles qui sont vice-championnes olympiques, qui sont aussi championnes du monde et qui maintenant, en plus, sont championnes d'Europe. Puis au niveau du rayonnement du sport féminin, c'est bien aussi. Au GSMH, on met vraiment l'accent pour avoir beaucoup de licenciées féminines. On a d'ailleurs une nationale 3, donc c'est un bon niveau féminin, donc c'est vraiment une bonne nouvelle, bien entendu.
Donc vous soutenez la France, pas une autre équipe ?
Non, on souhaite un petit peu la Grèce, parce qu'on a Grigorios Ioannou, qui est un joueur de notre équipe de Pro League et qui est international en Grèce, mais on est quand même pour la France.
D'accord. Merci beaucoup, Zélia, de nous avoir parlé du GSMH. Je vous laisse, Jérémy, vous expliquer le reportage qui va suivre.
Alors, avant tout, j'avais une petite question encore pour Zélia. C'est par rapport au prochain match du club, simplement, et de l'équipe de Pro League également. Où ça va se passer, quand ça va se passer, fais un peu de promo pour ce magnifique club.
Alors, notre prochain match en championnat, ça sera le 1er février à la halle Pablo Neruda, pardon. Donc ça sera contre Limoges. Et ensuite, avant, si vous aimez beaucoup le hand, donc on a les Masters de handball, donc le tournoi qu'on a organisé dont je parlais tout à l'heure, avec Istres, une équipe qui est montée en Lidl Star League, avec deux formations étrangères et avec le GSMH. Donc voilà, venez nombreux, c'est les 19 et 20 janvier à la salle Clémenceau.
Eh bien, c'est parfait, les rendez-vous sont pris le 19 et le 20 janvier, là, à la Georges Clémenceau. Si je dis, c'est bien ça.
À la Clémenceau.
C'est bon, j'ai une mémoire d'environ 10 secondes, c'est suffisant. Donc c'est parfait, maintenant on va pouvoir vous passer un petit reportage de Thibaut Jean-Pierre qui a parlé d'étudiants en difficulté qui sont hébergés par des familles à Grenoble. C'est parti.
Rémi, il est prof de maths sur le campus et avec sa femme, ils ont mis leur chambre d'amis à disposition d'un étudiant pendant un gros mois. Kenza, elle, est étudiante et avec son coloc, ils ont accueilli un étudiant parti il y a une semaine maintenant. Kenza et Rémi ont tous les deux répondu à l'appel du RUSF 38 lancé début septembre. L'urgence, c'est que des étudiants sur le campus ne peuvent pas se loger.
La première chose qu'on a reçue, donc, c'est ce mail-là, et puis après on a été en contact par mail, et puis après on a été contacté directement par l'étudiant. Enfin, je veux dire, le premier contact, on n'a pas eu de contact direct avec le RUSF 38. On a eu plutôt directement le contact avec l'étudiant. Donc c'est vrai que c'était un petit peu direct, on va dire. Donc c'est vrai que typiquement, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire attention pour les prochaines fois qu'on met en place un étudiant. Non, il n'y a pas eu de problème. Je veux dire, c'est juste que déjà la personne, elle arrive chez toi comme ça. Et je pense que pour elle, c'est difficile parce que c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a pas forcément, connaît pas forcément les codes. Du coup, elle arrive comme ça chez quelqu'un sans être accompagnée, je pense que c'est compliqué. Et puis pour nous, il y a aussi une interrogation, on sait pas qui c'est, on connaissait pas du tout son passif ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça, voilà, enfin c'était bizarre, on va dire.
Ouais. Moi, le truc, c'est que vraiment l'appel, il a été fait dans... Enfin, c'était vraiment un appel à l'aide, c'était vraiment dans l'urgence. Et donc moi, je suis étudiante, je suis en colocation, j'ai pas de chambre, j'ai pas d'autre chambre. Du coup, ce que j'ai proposé, c'était de pouvoir loger quelqu'un dans mon salon, parce que j'ai un matelas qui est assez confortable. Avant de m'acheter un lit, je dormais dessus, je sais qu'il est bien, quoi. C'est pas un vieux matelas tout pourri. Mais du coup, j'avais proposé ça. Mais du coup, moi, la situation était un peu plus compliquée parce que j'avais quelqu'un qui dormait dans le salon. C'était plus compliqué pour moi et mon collègue, mais surtout pour la personne aussi. On comprend très vite que l'intimité, elle est assez réduite quand tu dors dans une pièce commune comme ça. Du coup, j'ai reçu le mail. J'étais en contact avec le RUSF. On a parlé par mail. Je leur ai expliqué mes conditions, tout ça. Et après, on m'a donné le numéro de l'étudiant. On s'est contacté directement. Puis lui, il est venu. Il est d'abord venu pour le café. On est venu boire un café. Et ce qui m'a marqué quand même pendant cette rencontre, c'est qu'il est venu accompagner. Ce que je comprends tout à fait, quand on va dormir chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, je peux être n'importe qui. Je peux être bien intentionné, mais je peux ne pas l'être aussi. Et du coup, lui, il était venu avec une copine de sa classe, qui, elle, est française, elle est née en France. Voilà. Et c'est que, du coup, je leur ai ouvert la porte en bas. Et du coup, je lui ai proposé à elle de monter aussi. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle s'est présentée, puis elle m'a dit « Je suis désolée, je viens d'apprendre sa situation ». C'est que là aussi, on peut voir que ça peut concerner n'importe quel étudiant. Je veux dire, toi qui es étudiant, moi qui suis étudiant, peut-être qu'il y a quelqu'un dans mon amphi, quand moi je rentre en cours, j'ai mon petit sac à dos, je rentre, j'ouvre ma porte, je suis chez moi au chaud. Il y a des gens qui n'ont pas forcément ça, et c'est qu'on peut comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on va dire facilement. Si on commence à dire dans son amphi, à ses camarades « Écoute, moi je dors dans la rue », on va vite être stigmatisé, on va vite être pris en pitié. Enfin, c'est pas forcément des émotions qu'on a envie de voir naître chez les gens quand on leur parle. Du coup, ça m'avait marqué vraiment de la voir, qu'il l'accompagne. Et puis, ça veut dire qu'ils étaient quand même amis, qu'ils se connaissaient, si elle a décidé de l'accompagner, et qu'elle a appris sa situation comme ça il y a une heure, alors qu'ils sont en cours, ils étaient en cours ensemble depuis déjà bien un bon mois, quoi.
Alors, la question qu'on se pose tous, c'est de savoir si leur quotidien a changé. Normal, quand t'accueilles un étudiant chez toi pendant plus d'un mois, tu peux légitimement penser que ta routine, elle va en prendre un coup.
J'imagine un petit peu, mais pas de façon très perceptible. Enfin, je veux dire, j'allais au travail à la même heure, etc. Parce que on lui avait quand même donné pas mal de liberté. Il avait un jeu de clés, donc il pouvait rentrer quand il voulait. C'est juste que des fois, on essayait de faire attention à ce qu'il mange avec nous, ou ce genre de choses. Mais parce que donc, ouais, il allait manger au Resto du Cœur, parce que donc il avait pas de revenus. Là, il venait juste d'arriver en France en septembre. Donc il n'avait pas encore commencé. Donc il avait fait sa demande d'asile, mais le temps qu'il commence à toucher les allocations, ça prend un peu de temps. Donc c'est vrai qu'il mangeait au Resto du Cœur, il récupérait de la nourriture là-bas, donc il pouvait cuisiner chez nous. Mais c'est vrai que des fois, du coup, on lui proposait de venir manger avec nous, histoire que bon, voilà, ça l'oblige pas de sortir forcément. Et puis bon, c'était quand même assez sympa de discuter avec lui. Et voilà, donc à part ces moments-là, ça n'a pas forcément changé énormément. Mais parce qu'il avait quand même une pièce à lui. Hein, je pense que typiquement avec Kenza qui s'était dans un salon, c'était différent.
Oui, bah moi ça a changé plus de choses du coup. Enfin déjà avec mon coloc, on aime beaucoup recevoir. Donc du coup, pendant la période où on a hébergé, on a évité de recevoir trop tard aussi. Ce qu'on comprend aussi, enfin... Si je ne vais pas recevoir des gens jusqu'à 2-3 heures du matin, s'il y a quelqu'un qui dort dans une pièce commune. Voilà, ça a changé un peu ça. Après, sur le reste, pas trop. Parce qu'il, enfin, je veux dire, ça fait quand même un moment que lui, il est sur Grenoble. Donc, il a sa vie, il a ses amis, il a tout ça. Donc, il part en cours le matin. Et, enfin, il a sa vie comme tout le monde, quoi. Pour les repas, bah, c'était... Comme il a dit Rémi, parfois, il mange au Resto du Cœur. Parfois, il mange avec nous. C'est un moment, ça dépendait de son humeur. Parfois aussi, il avait de la nourriture qu'il ramenait, qu'il cuisinait. Il a même cuisiné un jour pour nous, c'était grave bien. C'était grave bon. Ça, j'aime bien aussi parce que c'est le partage de culture. Du coup, il nous a fait un plat typique. Et ça, j'avais trop aimé. Ça, j'avoue que c'était vraiment quelque chose que j'avais bien aimé. Il avait fait le plat pour nous. Et ça, c'est vraiment les bons côtés, quoi. Ça nous permet de voir quelque chose, de connaître, de toucher une culture sans pourtant voyager pour autant, quoi. Et ça, j'avais beaucoup aimé.
À entendre Kenza, on peut se dire qu'elle a tissé un lien d'amitié fort avec son hôte. Bah, apparemment, la relation tissée, elle est d'une autre nature. Pareil pour Rémi.
Alors, ouais, on a discuté régulièrement, on a rigolé ensemble, mais je veux dire, il y avait quand même toujours eu une distance. Je pense qu'il y a une distance qui était là et qui aurait été difficile à briser, parce qu'on est quand même sur des cultures différentes. Et même, je pense que lui, il n'était pas du tout à l'aise parce qu'il était hébergé. Nous, ça ne nous gênait pas du tout, on lui laissait accès à la cuisine, à la salle de bain, et on a vraiment essayé de tout faire pour qu'il se sente bien, mais... Je pense que pour lui, c'était quand même délicat parce qu'il est quand même chez quelqu'un. Et ça se voyait très bien qu'il était très gentil, très poli, il faisait très attention. Mais on voyait bien qu'il voilà, il avait quand même un voilà, il sentait pas complètement chez lui et il sentait pas libre de tout faire. Voilà, je veux dire, c'était pas comme si c'était un colocataire, par exemple.
Alors pas tellement, il est assez timide en fait. Et puis comme il l'a dit Rémi, la culture elle est assez différente, les codes sont différents. C'est vraiment... même pour lui, c'est pas facile d'arriver chez quelqu'un comme ça. Tu connais pas les gens chez qui tu dors. Et puis, t'es dans un pays... Enfin, bref, c'est compliqué. Du coup, il est assez réservé. Je pense qu'il aime bien aussi garder son intimité. Après, on a quand même passé des bonnes soirées. Moi, je me souviens d'une soirée où... comme j'ai dit, j'aime bien recevoir. Et j'avais, je crois, un ou deux amis, ou je sais plus qu'un, qui était venu un samedi soir. Donc là, ça va, on peut traîner. Il y a personne qui a... de quoi faire le dimanche. Et le truc qui était marrant, on a vraiment bien rigolé en vrai à cette soirée, c'est que du coup, il a décidé, on joue au Pictionary. Ouais, c'est un petit jeu qu'on aime bien faire avec mes amis, c'est marrant. Et du coup, lui, il a décidé de nous faire plein de devinettes. Et il en avait des... Enfin, moi, j'étais impressionnée, il devait connaître 500 devinettes. Non, c'était vraiment marrant. Et du coup, là, je trouvais que c'était vraiment sympa. Parce qu'au final, on se rend vraiment compte que malgré sa situation qui est assez difficile, malgré l'histoire qu'il a eue, je veux dire, au final, il a notre âge, c'est un étudiant. C'est comme si on passait une soirée entre potes, quoi. Après, c'est sûr qu'il était beaucoup dans la réserve. Il parle pas beaucoup de lui. Et je l'ai pas forcément poussé, parce que j'ai pas envie forcément de raviver des choses qu'on n'a pas forcément envie de raconter. Voilà. J'ai été, je pense, une étape dans sa vie. Je me souviendrai toujours de lui, c'est sûr. Et j'espère qu'il se souviendra de moi, qu'il aura un bon souvenir. Mais après voilà, le but aussi quand on loge quelqu'un, c'est pas de s'inscrire dans sa vie, c'est pas une adoption non plus. On tend la main à quelqu'un qui en a besoin, et enfin j'ai pas envie de forcer l'accès ou de quoi que ce soit. C'est que voilà, c'est qu'il a sa vie, j'ai ma vie, il a dormi chez moi, voilà, tout s'est bien passé, et puis maintenant
Ce qui est intéressant chez Kenza et Rémi, c'est qu'ils ont tous les deux fait du couchsurfing avant de répondre à l'appel du RUSF 38.
Ça a été assez rapide, en fait. On a reçu le mail comme quoi, voilà, il y avait des étudiants qui étaient dans la rue. Et puis on s'est dit, avec ma compagne, on a reçu le même mail. Et puis, je me rappelle, elle m'a envoyé un mail juste après en me disant, t'as eu ce mail. Enfin, c'est quand même con qu'il y ait des jeunes dans la rue. Autant qu'on a une chambre, autant qu'on fasse quelque chose, quoi. Et du coup, on a répondu et ça s'est fait comme ça, quoi. Du coup, enfin, le cheminement, il a été assez rapide, en fait. Enfin, c'est vrai que j'avais jamais forcément fait ce genre de choses. Je veux dire, j'avais fait du coach surfing, mais qui est complètement différent comme dans l'idée. On n'est plus pas dans l'aide à quelqu'un, c'est plutôt du tourisme gratuit, quoi. C'est vrai que j'avais jamais été forcément dans ces problématiques-là. Du coup, c'est un peu la première fois que je rentre là-dedans. On était quand même conscients qu'il y a des gens à la rue, et c'est vrai qu'on... Enfin, on espère que l'État fait quelque chose et sans forcément se bouger. Et c'est vrai que là, il y avait ce mail-là qui arrivait, qui nous tendait une perche et on l'a prise, quoi. C'était un peu ça, quoi. Et après, bon, comme on est tous les deux, ma compagne et moi, à l'université, je pense que le côté étudiant, ça aussi, ça nous a sensibilisés un peu plus, quoi.
Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Il faut savoir que j'ai vu l'email, en plus, en étant étudiante, ça m'a tout de suite marqué. Et un peu comme Rémi, en fait, je fais beaucoup de couchsurfing. J'en ai fait beaucoup en voyageant. Et une fois que j'ai eu mon appart, je me suis dit, je vais accueillir quelqu'un. Mais c'est complètement différent. Donc, de la plupart du temps, déjà, ça va être des personnes qui ne sont pas du tout en difficulté, qui viennent pour voyager, qui viennent pour une durée qui est courte, qui est limitée. Voilà, c'est des gens qui viennent pour s'amuser, qui sont là pour échanger. C'est complètement différent. Mais je me disais, au final, si je suis capable d'héberger quelqu'un que je connais pas comme ça au pif, que je rencontre par une application, pourquoi pas héberger quelqu'un qui en a besoin au final. Et du coup, voilà, c'est fait comme ça. J'en ai parlé avec mon coloc avant quand même, parce qu'il vit avec moi. Il était tout à fait d'accord. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
L'élan de solidarité de Rémi et Kenza a été bien reçu par leur entourage. Ils ont même été remerciés pour leur geste.
Moi, ça a été plutôt bien accueilli. J'ai juste mon père qui a été inquiet. Enfin, c'est mon père. Surtout quand je lui ai dit que ça allait être un homme. Après, il s'est un peu calmé quand je lui ai dit « c'est un étudiant ». Il m'a dit « ah d'accord, donc c'est un étudiant, ça fait quand même un petit peu plus sérieux que si c'était quelqu'un qui... » Voilà, je sais pas, juste quelqu'un comme ça. Donc ça a rassuré mon père. Après, le reste, ma mère, elle était... Enfin, mes parents, en général, ils ont bien pris ça. Mes amis aussi. Enfin, j'ai plutôt eu des encouragements et des gens même qui me remerciaient d'une part d'avoir le courage d'accueillir que eux n'avaient pas. Parce que c'est quand même... la question qui revenait souvent, c'est pas la question de la confiance, mais t'as pas peur, tout ça, et si c'était quelqu'un de mauvais, et si machin, et si blabla. Et au final, moi, ce que je me disais, c'est que sa situation à lui, c'est pareil, il pourrait se dire la même chose de son côté, et si l'échange... Enfin, la relation de confiance, bien sûr, elle est de moi vers lui, mais elle est aussi de lui vers moi. Donc on est tous les deux concernés, et puis je pense que... Si quelque chose se passait mal, il a bien plus à perdre que moi. Enfin, je vois pas pourquoi quelqu'un dans cette situation se mettrait à faire n'importe quoi. Mais non, ça a été super bien accueilli par mes proches, par mes amis, par tout le monde.
Oui, enfin, moi, ça a été aussi bien accueilli. Même, enfin, ça a plutôt suscité de la curiosité qu'autre chose. Les gens étaient curieux de savoir, qu'est-ce que c'est comme étudiant, d'où il vient, etc. Plus que de l'inquiétude ou quelque chose comme ça. Bon, après, dans ma famille, moi je suis quand même beaucoup plus adulte, donc c'est pas comme Kenza où elle est étudiante et du coup c'est pas du tout pareil. Mais mes parents sont aussi un peu habitués à ce genre de choses. Je suis par exemple allé faire des trucs au Kosovo déjà, au contraire, ça les fait presque plus sourire de voir que je continue à faire des actions de ce genre-là qu'autre chose.
La suite pour le RUSF 38, c'est de trouver de nouveaux logements pour les étudiants qui n'en ont pas. Et avec l'arrivée de l'hiver, ça devient plutôt impératif.
En ce moment, on est en train de s'occuper de 4-5 étudiants et on essaye de leur trouver des solutions pour qu'ils dorment sous un toit. C'est compliqué. Là, il y a les vacances de Noël qui arrivent et pour l'instant, on a quelques contacts, pas énormément. Et dans les contacts qu'on a, la plupart veulent pas forcément héberger pendant les vacances de Noël, ce qu'on comprend très bien, c'est quand même des vacances familiales. Donc ça commence à devenir compliqué, quoi. Je sais pas. Enfin... Je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est une des choses qu'il faut qu'on règle d'ici Noël. Après, moi, plus personnellement, je pense que moi et ma compagne, on va sûrement héberger d'autres étudiants quand le besoin viendra. Évidemment, on ne va pas héberger quelqu'un tout le temps parce que c'est quand même quelque chose de lourd. Et on a un petit appartement et c'est vrai qu'au bout d'un mois, on était quand même content d'être libéré, enfin libéré entre guillemets. Enfin, c'est quand même que ça permet d'inviter des gens. Enfin, le fait que l'étudiant était ici, ça nous empêchait de recevoir de la famille, parce que la famille de ma compagne et moi sont assez loin, et la seule façon qu'on les a, c'est de les héberger. Donc voilà, bon, héberger constamment, ça serait lourd et compliqué, mais un mois de temps en temps, c'est complètement envisageable. Et puis c'est assez sympa, enfin, ça permet de rencontrer des gens d'origines différentes. Voilà.
Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
C'était Campus Grenoble 90.8. Bonne soirée et bonne fête de fin d'année.